Construire un monde plus humain, ça commence par nous, avec le Crédit Coopératif. Ensemble, nous avons ce pouvoir, le pouvoir du nous.
Que veulent ces marginaux ?
Ils font ça en signe de protestation. Ils veulent changer le monde.
Changer le monde ? Quelle drôle d'idée ! Il est très bien comme ça, le monde pourrait changer.
Après l'ère industrielle, chez nous, il y a eu les grands procès et les boycotts.
Le boycott ?
Tout ce qui était mauvais pour la vie, on l'achetait plus.
C'était l'arme absolue. Plus d'achat, plus de pouvoir.
Ouais.
Ça commence par moi, l'émission.
Bonjour et bienvenue dans Ça commence par moi, l'émission sur Rage. Moi c'est Julien, je suis très heureux d'être avec vous pendant cette prochaine demi-heure. Parce que le monde de demain, vous le savez, c'est aujourd'hui que ça se passe. Nous allons répondre ensemble aux grandes questions de notre époque pour apporter des solutions efficaces et applicables directement dans notre réalité. Ça commence par moi, c'est l'émission de la transition éco-citoyenne qui donne la parole à des acteurs du changement. Ça se passe sur la radio Rage chaque semaine et vous pourrez bien entendu nous suivre sur les réseaux sociaux et retrouver le podcast sur rage.fr, Spotify et iTunes. Pour cette dernière émission de la saison, déjà, on va parler de démocratie citoyenne. Et au risque de paraître un peu dur, notre démocratie en France, elle fait pâle figure. Nous sommes englués dans un mouvement social depuis de longs mois. Et de plus en plus de personnes se posent même la question de savoir si nous sommes vraiment en démocratie. Pour discuter de ces enjeux, nous accueillerons Mathilde Himmer de l'association Démocratie Ouverte, coprésidente de l'association Démocratie Ouverte. Mais avant d'accueillir notre invité, je voulais vous partager la bonne nouvelle de la semaine, car c'est bien connu, on entend beaucoup moins la forêt qui pousse que les arbres qui tombent.
Encore une bonne raison de se réjouir d'un monde qui change avec Ecosia, le moteur de recherche qui plante des arbres.
Et allez, la bonne nouvelle de la semaine, elle nous vient des maires d'Europe, puisque 200 d'entre eux ont appelé récemment l'Union européenne à la neutralité carbone d'ici 2050. On peut par exemple citer Paris, Milan, Londres, Séville, Stockholm, Amsterdam, Athènes, Stuttgart ou encore Oslo, et tous les maires s'accordent sur le même message, la neutralité climatique d'ici 2050 est la seule option viable pour l'avenir de l'Europe et du monde. Ça fait un beau projet autour duquel construire l'Europe de demain, à mon avis. C'est un message d'urgence qui montre que de plus en plus de politiques s'approprient les enjeux climatiques à faire à suivre. Et moi, j'accueille tout de suite Mathilde Himmer, coprésidente de l'association Démocratie Ouverte. Salut Mathilde.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Tu es en pleine forme, j'ai l'impression.
En pleine forme, même si la mobilisation monte et qu'on est tous un petit peu fatigués.
Ouais, la tête dans le guidon, mais c'est un marathon qui s'annonce, il y a plein de choses à faire.
C'est un marathon et c'est un marathon qui fait vraiment que commencer. On a vu la mobilisation monter depuis la démission de Nicolas Hulot, on voit la mobilisation des Gilets jaunes qui commence à faiblir. Néanmoins, on attend un regain de mobilisation et on s'y prépare au mois de septembre. Je pense que tu es déjà bien au courant. Et l'idée, c'est de faire un peu comme un tube de dentifrice, d'avoir à la fois la mobilisation qui s'active et qui fait pression sur le tube, et en même temps d'ouvrir un petit peu le bouchon avec cette fameuse convention citoyenne dont on parlera
tout à l'heure. Le bouchon, il va sortir, il va jaillir, il va y avoir du dentifrice de partout, ça va être dégueulasse. Non mais attends, on parle de démocratie ouverte tout de suite quand même, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous, votre mission, c'est d'accélérer la transition démocratique vers une société plus ouverte.
Exactement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre démocratie aujourd'hui, on le voit en France, mais on le voit aussi à travers le monde, ne va pas bien. Certains, même comme tu le disais, se posent la question, sommes-nous encore en démocratie ? Quand on voit aujourd'hui des journalistes qui sont convoqués par la DGSI, on peut se poser en effet un certain nombre de questions. Ce qu'on dit nous, c'est que c'est pas normal en fait, que pendant plus de 20 semaines, un mouvement comme celui des Gilets jaunes ait besoin d'être dans la rue pour se faire entendre. C'est pas normal que les écologistes aient besoin d'attaquer l'État en justice pour se faire entendre. C'est pas normal qu'on ait un taux d'abstention aussi énorme, que ce soit aux élections européennes, même si la participation est plus forte que celle qu'on attendait, ou que ce soit en général élection après élection. Donc on voit bien là plein de signaux qui nous font tous dire que notre démocratie va mal, qu'on en a ras-le-bol des politiques, que ce soit en déjeuner ou en dîner de famille, ou que ce soit à la télévision sur BFM. Donc l'enjeu là, c'est de mettre à jour notre logiciel démocratique. Et ce qu'on porte, c'est à la fois ne pas remettre en cause totalement ce qui a pu marcher et ce qui marche aujourd'hui dans notre système politique actuel avec des représentants politiques, mais d'essayer de venir le compléter avec des outils de démocratie directe qui permettent d'amener de la respiration et de faire entendre la voix de ceux qui ne se sentent plus écoutés, entendus, représentés par nos élus.
Concrètement, à quoi ça ressemble ?
Concrètement, démocratie ouverte, on a trois actions et donc on est structuré en trois grands pôles. Un premier pôle qui est un incubateur où tout simplement là on va dénicher et accompagner les pépites qui feront la démocratie de demain. Donc ça peut être des plateformes de participation citoyenne, ça peut être des plateformes qui permettent à des députés et à des citoyens de co-construire ensemble la loi, ça peut être des manières de faciliter un débat, ça peut être des manières de construire des partis politiques ou des mouvements citoyens. La deuxième chose qu'on fait, c'est tester, d'expérimenter ces innovations démocratiques. Parce que c'est bien beau de faire de la civic tech et d'essayer de faire améliorer notre démocratie, mais est-ce que ça marche sur le terrain? Quand on voit un mouvement comme celui des Gilets jaunes qui s'est constitué en allant sur les ronds-points et en utilisant Facebook, ça pose un certain nombre de questions. Et pour être honnête, en tant que co-président de Démocratie Ouverte, je me suis un peu pris une claque. Non, mince, on passe notre temps à construire les outils, finalement c'est Facebook qui est utilisé, et on voit qu'il y a du mal à organiser, finalement, à donner une forme d'organisation à ce mouvement-là. Donc ce qu'on fait, c'est d'expérimenter sur les territoires, vraiment à droite à gauche en France, au niveau de régions comme la région Occitanie, au niveau de villes comme la mairie de Paris ou de Los Angeles, ou au niveau de départements, mais aussi de certains mouvements où on accompagne et on aide et on soutient, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes dans certains de ces outils de démocratie aujourd'hui en interne. Et la troisième chose qu'on fait, c'est la question du plaidoyer. Comment est-ce qu'on fait pour que les citoyens aient une mise à jour du logiciel démocratique dont on parle, pour que demain ça fonctionne mieux que ça ne fonctionne aujourd'hui? Et c'est via cette troisième activité qu'on a plaidé pour une assemblée citoyenne sur la question de la transition écologique, mais aussi de manière plus large sur le RIC et la justice fiscale, à la place ou après le grand débat. Mais on y reviendra, je pense.
On y reviendra, effectivement. Ouais. Mais c'était hyper nécessaire que tu nous présentes, effectivement, l'éventail global de toutes les actions que vous mettez en place avec Démocratie Ouverte. Et ce qui implique, en plus, parce que vous avez des missions qui sont tellement ambitieuses, d'avoir un réseau de partenaires forts.
Oui, on a un réseau de partenaires assez fort. On a, au sein de Démocratie Ouverte, on a à la fois, évidemment, des citoyens, mais on a évidemment des innovateurs démocratiques et on a des élus locaux. Et un certain nombre de partenaires, que ce soit dans le monde politique traditionnel ou que ce soit dans le monde des entreprises, où les entreprises aussi, en termes de gouvernance et de manière de décider, ont des grands pas à faire et des avancées à mettre en place.
Oui, donc c'est pas que la responsabilité des citoyens, en fait.
Non, c'est partagé. Après, si les citoyens ne se bougent pas, on n'arrivera à nulle part ou on arrivera à la case populiste, comme on le voit dans un certain nombre de pays. Est-ce que c'est ça qu'on souhaite globalement en tant que citoyen? Je crois pas. Je crois qu'il y a vraiment un volt de colère qui s'exprime par cette voie-là. Et je crois qu'il y a vraiment une envie. Et on le voit, hein, le mouvement des Gilets jaunes, la première recommandation qui est sortie, c'est quand même celle du référendum d'initiative citoyenne. Pour un mouvement qui est né sur la question du pouvoir d'achat, c'est quand même très fort. Mmh. Et je pense que c'est un signal à écouter et à entendre qui est intéressant.
Et donc finalement, les gilets jaunes, la taxe carbone, le RIC, on en a maintenant tous entendu parler, et se lance ce fameux mouvement gilet citoyen avec vous, et vous appelez de vos voeux la création d'une assemblée citoyenne qui soit digne de ce nom. Pourquoi?
D'abord peut-être un petit mot sur les gilets citoyens, parce qu'il y a Démocratie Ouverte qui est un des collectifs qui a initié ce réseau. Ce réseau qui est aujourd'hui pas fort par le nombre, mais de par sa diversité. C'est-à-dire que on s'est retrouvés entre acteurs de la démocratie, notamment de la démocratie participative, des gilets jaunes, des écolos comme Cyril Dion, Laurence Subiana, Maxime de Rosselan, et aussi des élus locaux à se dire, en fait, ce grand débat, c'est une bonne idée, sauf que la manière dont il est ficelé fait qu'on a un petit peu peur de cet enfumage. Et aujourd'hui, le fait est qu'on a l'impression qu'on avait plutôt raison d'avoir un certain nombre de craintes, d'où le fait qu'on ait poussé ensemble pour la mise en place de cette fameuse assemblée citoyenne tirée au sort. Et j'ai oublié ta question.
Non, je te parlais de gilets citoyens, parce qu'effectivement, ouais. Grand débat, on consulte les citoyens, waouh, c'est vachement bien, et puis maintenant, on va demander à des citoyens de répondre notamment aux grands enjeux écologiques avec une assemblée citoyenne. Vous appelez justement à ce que cette assemblée citoyenne, elle soit bien faite. Qu'est-ce que ça veut dire?
Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on reprend le grand débat, au tout début, n'importe quel citoyen pouvait se dire « pourquoi pas ?» C'est une bonne idée de faire débattre les citoyens à un moment où on n'est pas d'accord et on voit des citoyens dans la rue et sur les ronds-points chaque week-end. Néanmoins, ce qui nous a gênés, nous, Démocratie Ouverte, et plus largement l'ensemble du collectif des Gilets citoyens, c'est la manière dont ça a été ficelé. Et le digne de ce nom, tout est dans les détails. On sait que le diable est dans les détails sur ce genre de process de participation démocratique. Et du coup, c'est ce qu'on dit là. C'est-à-dire que si c'est à nouveau un processus où il n'y a pas suffisamment de transparence, où il n'y a pas de débouché clair qui est à la main des citoyens, parce que le grand débat, finalement, le gros problème, c'est quoi? C'est qu'on a des citoyens qui jouent le jeu, qui participent, qui ont donné des idées, mais qu'à la fin, qui a la main sur ce qui en ressort et qui sera appliqué. Finalement, il n'y a qu'une personne ou qu'un seul gouvernement, qui est celui aujourd'hui d'Emmanuel Macron. Je crois que les citoyens aujourd'hui ont envie d'autre chose. D'où le fait que dès le début, quand on parle de l'Assemblée citoyenne, on pose clairement que cette convention citoyenne est, elle, décisionnaire sur les propositions qu'elle fait, mais aussi sur l'avenir de ces propositions. Est-ce que ça doit passer au référendum? Parce qu'il faut que tous les Français votent dessus, parce que c'est extrêmement important. Est-ce que ça peut être transmis au Parlement, parce que c'est le travail de nos élus d'affiner, de corriger, d'affiner finalement ces propositions pour qu'elles passent dans la loi de manière claire et précise et rentrent dans le corpus de loi qu'on a déjà? Est-ce que ça doit passer au règlement directement? C'est extrêmement important que ce soit les citoyens qui aient la main sur le débouché de ces propositions.
Il y a une assemblée citoyenne qui va se lancer à l'initiative notamment de François de Rugy. Comment vous allez pouvoir l'accompagner? Est-ce que vous allez pouvoir l'accompagner? Est-ce qu'il y a des règles à mettre de manière très claire en amont de l'organisation de cette assemblée? Concrètement, c'est quoi vos échéances là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Et surtout, aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, elles, pour faire pencher la balance du côté qui nous intéresse?
Alors en effet, François de Rugy, plutôt Emmanuel Macron, ont lancé cette convention citoyenne. L'idée, c'est d'avoir 150 citoyens tirés au sort qui délibéreront pendant 6 mois sur les questions d'écologie. Cette initiative, elle est née en rebond de notre proposition au moment du grand débat, où depuis le début, nous, on est en discussion à la fois avec les Gilets jaunes et à la fois avec le pouvoir et notamment l'Élysée. L'Élysée a décidé de rebondir sur notre proposition uniquement sur les questions d'écologie. Du coup, aujourd'hui, on est en discussion, on l'accompagne, on négocie, vous prendrez le mot qui vous convient, sur justement... C'est quoi les critères qui feront que ça marche ou que ça marche pas, ces fameuses conditions de réussite? La première, je le disais, c'est que les débouchés, elles soient clairement à la main des citoyens. La deuxième, c'est le périmètre. Si on demande aux citoyens de parler uniquement de chaudières et de petits sujets, alors qu'on est dans une crise écologique très forte, que les scientifiques n'arrêtent pas de le rappeler, ça ne marchera pas. La troisième, c'est la médiatisation. C'est-à-dire que si c'est un citoyen qui est uniquement entre ces 150 citoyens tirés au sort, et que ça ne pénètre pas dans les chaumières de l'ensemble des citoyens par France Télévisions ou par des émissions comme Ça commence par moi ou d'autres créateurs et youtubeurs, ça marchera pas non plus. On l'a vu dans des exemples irlandais et texans, ce genre de mécanisme-là est un mécanisme de délibération qui permet de créer du débat et de permettre aux citoyens de s'approprier quels sont les pour, quels sont les contre sur une question, et du coup de changer d'avis. Le débat, c'est ça, c'est comment est-ce qu'en discutant, on se fait changer d'avis pour arriver à des propositions qui sont communes à la fin.
Donc une caisse de résonance.
Exactement, une énorme caisse de résonance, c'est extrêmement important. Et ça, c'est quelque chose sur lequel les citoyens peuvent avoir un impact.
Comment?
La première chose, c'est de pousser au maximum pour que le gouvernement mette une médiatisation forte autour de ça, notamment avec France Télévisions, mais aussi en interpellant finalement les personnes comme toi qui ont des émissions et qui ont ce pouvoir-là d'aller suivre les débats, de créer des émissions autour de ça. On a 6 mois, on sait que c'est à partir de septembre que ça va se lancer. Comment est-ce que tous les créateurs qui ont envie de participer peuvent imaginer des dispositifs qui peuvent être sympas et qui permettent aux citoyens de suivre en live et après l'Assemblée citoyenne ce qui s'est passé pendant l'ensemble des débats? On a par exemple déjà Cyril Dion qui est partant pour faire un documentaire, Magali Payen qui a créé On est prêt, qui est aussi partante pour, avec les youtubeurs du réseau et les créateurs du réseau, essayer d'imaginer un certain nombre de dispositifs de médiatisation. Pourquoi pas d'avoir des processus de citoyens qui peuvent aussi venir directement dans la salle checker qu'est-ce qui se passe concrètement là.
Et donc ça passe aussi par l'intérêt des citoyens à ces questions, et donc plus les gens vont s'y intéresser, plus on aura envie d'en parler.
Exactement, exactement. Ouais.
On se fait une première pause, et d'ailleurs la seule pause, hein, je ne sais pas pourquoi c'est une première pause. On a dit plein de choses, on prend un peu d'air. Tu nous as apporté avec toi une chanson que j'aime tout particulièrement, laquelle? Et pourquoi?
La chanson, c'est une chanson de Kaït Racé, Latina Malika. Pourquoi est-ce que je l'ai amenée? Pour une raison simple, c'est que je pense qu'on arrive à un moment sur la question de la crise écologique où en fait la question de la radicalité, qui est un mot un peu tabou aujourd'hui dans notre écosystème, à la fois fait peur et en même temps donne envie. Radicalité, ça veut dire quoi? C'est revenir à la source du problème, à la racine, radicalité. Et donc ce qui m'intéresse là, c'est de revenir à la source de « en fait la nature n'est pas à vendre ». C'est ça, je crois, un des grands messages de cette chanson. Et quand on voit des rapports qui sont remis à l'ONU aujourd'hui qui disent que non, le capitalisme n'est pas compatible avec une transition écologique à la hauteur des enjeux, se pose la question de quelle est la place de l'argent, quelle est la place de la nature, qu'est-ce qui se vend, qu'est-ce qui se vend pas. Et je pense qu'il y a une question culturelle au-delà de ça, de Comment arrêter de voir la nature comme en dehors de nous, mais comme nous, être faisant partie de la nature et qui est une culture qui est profondément ancrée dans la culture latino-américaine, que ce soit au Mexique ou que ce soit en Colombie et les autres pays latinos.
Et ben pour ceux qui parlent espagnol, faites bien attention à vos paroles. Et puis pour ceux qui ne parlent pas espagnol, kiffez quand même. C'est parti, Calle 13.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
Non, j'attends. J'attends, je la laisse, parce que du coup, il y a quand même un truc, il y avait Toto la Momposina qui terminait, je suis désolé, je la laisse jusqu'au bout. Merci Mathilde pour ce super choix de chanson. Allez, on est de retour dans Ça commence par moi l'émission, nous sommes toujours avec Mathilde Himmer, coprésidente de l'association Démocratie Ouverte. Et toujours dans la seconde partie d'émission, on prend un peu de hauteur par rapport au sujet de prédilection de notre invité. Et moi, la première question que je voulais te poser, c'est est-ce que nous sommes encore, oui ou non, en démocratie en France?
Je dirais aujourd'hui oui, mais il est vrai qu'il y a un certain nombre de digues démocratiques là, qui commencent à céder et qui me font très peur. Et je pense, ce qui me fait encore plus peur finalement, c'est que ça se banalise et que ça ne nous alerte même pas, ou même plus.
C'est Philippe Biwix qui parle des shifting baselines, du glissement des points de référence. Lui, il le compare avec les générations de pêcheurs et tu vois les photos où l'arrière-grand-père a un gros poisson. Pour le père, un gros poisson, c'est plus petit. Pour le fils, un gros poisson, c'est encore plus petit. Là, on est quand même en train de s'habituer à des gens qui sont agressés par les services d'ordre dans la rue tous les jours. On est en train de s'habituer à des journalistes qui sont invité par la DGSI, je fais des guillemets quand je dis invité, parce qu'en fait, ils remettent en cause la sécurité nationale. Ce sont des choses très graves. Tous les ans, la France recule au classement des médias, de la liberté de la presse. On est mal barré, là.
Ah, on est mal barré. On est très mal barré. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a urgence d'agir. Et je pense que le cœur du truc, et on le voit avec la crise des Gilets jaunes, si le RIC vient en premier, c'est que la question de la démocratie, elle est au cœur. Et on le voit aussi dans les autres pays. Ce qui se passe au Brésil aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, devrait nous alerter. Il n'y a pas de raison, on n'est pas meilleurs, nous, Français, que ces autres pays. Donc si on fait les mêmes choix, on arrivera au même résultat. La question, c'est, est-ce qu'on est capable d'un sursaut démocratique aujourd'hui en mettant en place des processus sous ce quinquennat qui sont profondément démocratiques et qui enlèvent cette verticalité et c'est remet un certain nombre de digues? Moi, j'ai encore cet espoir-là, à condition que nous, citoyens, on se réveille. C'est-à-dire que là, je pense qu'il y a une partie, finalement, des citoyens qui fait le boulot pour les autres, et que l'autre, tranquillement, dans son canapé, devrait peut-être, finalement, se réveiller et crier, pas forcément sur le contenu des revendications d'un certain nombre de mouvements, pas obligé d'être écolo, on n'est pas obligé d'être gilet jaune. En revanche, sur les questions de démocratie, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous concerne tous, et que les acquis auxquels on s'est habitués, pas quelque chose qui est permanent, et que donc, quand il y a des répressions policières trop fortes, que ce soit les gardes à vue pour les militants qui décrochent aujourd'hui les tableaux d'Emmanuel Macron, on n'est pas forcément d'accord avec l'action, néanmoins cette répression policière, elle est anormale.
Jusqu'à 10 ans hein, de prison, là, hein. Les procès s'ouvrent, c'est incroyable.
Évidemment que les flashballs devraient nous alerter, je pense qu'il y a un certain nombre de condamnations qui viennent de l'Union européenne et même globalement d'un certain nombre d'acteurs internationaux. Pareil, pourquoi est-ce que là-dessus, on ne se retrouve pas tous sur la question démocratique? Je pense que c'est suffisamment central pour qu'on se retrouve tous sur cette question.
C'est la fameuse phrase d'Einstein, me semble, qui dit que en fait, le tort n'est pas à ceux qui font vraiment le mal, mais à ceux qui ne font rien quoi, pour s'opposer à ce mal. Oui. Une autre phrase aussi qui dit que tu fais jouer Gandhi et Mère Teresa au Monopoly et les règles du jeu font qu'il y aura toujours un vainqueur et un perdant. Est-ce que finalement, le Monopoly, c'est pas notre 5e République? Et plutôt que de la dépoussiérer, de la réoxygéner, d'où l'ouvrir, en fait, il faudrait pas carrément en changer les règles une bonne fois pour toutes et la mettre derrière nous?
Je pense que c'est deux options, tout dépend de... Moi, je suis, à titre personnel, pas au titre de démocratie ouverte, je suis plutôt pour une 6e République. Néanmoins, qu'est-ce que ça veut dire, une 6e République? Est-ce qu'on est d'accord sur ce qu'on met derrière toi et moi? Est-ce qu'on est d'accord avec les auditeurs qui nous écoutent? J'en sais rien.
Et du coup, ce que tu dis, c'est qu'en remettant en place ces outils, et donc le citoyen au cœur de la 5e République, on le fera plus en conscience, en tout cas, de décider ensemble ce qui adviendra de la 6e République.
Je pense que la question de mettre en place des outils de démocratie directe à minima sous la 5e République est un indispensable. Est-ce qu'il faut aller plus loin vers une 6e République? Je pense qu'il faut se reposer la question dans un deuxième temps. Et je pense que c'est ce qu'on souhaite faire là aussi, cette assemblée citoyenne finalement. Si on regarde un petit peu et qu'on raconte l'histoire différemment, ça n'est rien d'autre que ce qu'on appelle un RIC délibératif. Il y a eu deux pétitions. La pétition de Priscilla Ludowski qui a lancé le mouvement des Gilets jaunes, plus d'un million de signataires. La pétition de l'affaire du siècle, plus de 2 millions de signataires, qui donne lieu à la mise en place d'une assemblée citoyenne qui va traiter de sujets d'écologie, mais aussi de fiscalité écologique, et donc de la taxe carbone qui a lancé le feu aux poudres du mouvement des Gilets jaunes, pour arriver, au bout de 6 mois, à de potentiels référendums. Ça n'est rien d'autre qu'un RIC avec une délibération au milieu pour éviter Ce qui peut faire peur avec cet outil du référendum, le oui-non à un pouvoir en place, ou le oui-non non éclairé. Là, justement, ça permet d'avoir, de rassurer finalement et les élus, leur montrer que c'est pas un truc contre eux, que c'est un truc qui est réfléchi de la part des citoyens, et en même temps les citoyens et ceux qui ne se sentent pas écoutés, parce qu'au bout, c'est quand même eux qui ont le pouvoir de décider.
D'autant que le référendum, en fait, un oui et un non, ça peut être deux mauvaises réponses à une question qui a été mal posée.
Exactement.
Donc ça, c'est jamais évident. Là, on remettrait en fait la citoyenneté au cœur, avec un rythme qui serait complètement différent. Jusqu'à présent, notre seul pouvoir s'exerce une fois tous les 5-6 ans en fonction des élections, mais après, derrière, plus rien. Là, il faut rechanger le tempo, en fait.
Totalement. Et le RIC permet ça. C'est-à-dire que ça met à la fois une pression bienveillante sur les élus, dans le sens où s'ils n'écoutent pas suffisamment les citoyens, ils savent que potentiellement, ils peuvent déclencher un RIC. S'ils les écoutent correctement, a priori, il n'y aura aucun RIC de lancer. Donc, ce n'est pas un truc contre les élus, c'est plus une pression citoyenne bienveillante. Et sur la question du référendum, en effet, là, ce qu'on propose est différent d'un référendum où la question serait mal posée, dans le sens où ce n'est pas Emmanuel Macron qui posera la question, mais bien des citoyens tirés au sort qui, pendant 6 mois, auront bossé pour arriver à une question qu'ils poseront à leurs co-citoyens. Mmh. Ça s'est fait, et on l'a vu, et ça marche. On se base
en Irlande,
au Texas. En Irlande, c'est incroyable, un pays catholique où la question, évidemment, de l'avortement et du mariage gay pose problème, des dissensus très forts, ils ont mis en place un tel système. À la fin, on est arrivé à un référendum avec 65% de oui sur le sujet, et surtout, un choix qui est fait de manière apaisée dans la société, parce que tous les citoyens ont pu participer au débat, se faire leur avis, et participer à la prise de décision finale.
Ce que tu dis là, c'est qu'en fait, on n'invente rien. En fait, là, ce que vous proposez d'implémenter en France, il n'y a rien de nouveau. Ça marche dans d'autres pays.
Il n'y a rien de nouveau, sauf que c'est nouveau pour nous en France.
Mmh.
On le fait beaucoup au niveau local, c'est-à-dire qu'il y a plein de systèmes de délibération, et les Français, il y a plein de Français qui ont déjà participé à ce type de processus, et ça marche très bien au niveau des territoires. Là où c'est nouveau, c'est que ça se fait au niveau national, dans un contexte social qui est très tendu, et c'est justement pour ça qu'on le propose. C'est que là, on a un truc où c'est le gouvernement face à un certain nombre de mouvements citoyens qui sont mobilisés. Il faut sortir de ça. Et donc, la manière de sortir de ça, c'est de remettre les citoyens au centre par un système de délibération qui permet d'apaiser tout en arrivant, parce qu'il ne s'agit pas d'apaiser pour perdre du temps et ne rien faire, tout en arrivant à des mesures structurantes sur les questions qui ont allumé les poudres il y a quelques mois déjà.
Donc de vraies actions, de vraies décisions, mais c'est sûr que cette opposition, en fait, elle n'est pas constructive. Il faut un rassemblement, il faut recréer des ponts entre...
Je pense qu'elle est constructive dans le sens où il faut bien à un moment, quand il y a des accords, être dans un rapport de force.
On est d'accord.
Et de la même manière, je vais même aller plus loin, c'est que faut pas être naïf. Si cette assemblée citoyenne, elle se fait seule et qu'il y a personne en dehors qui pousse pour des propositions, qui se mobilise dans la rue,
on est d'accord.
Ça ne marchera pas. Donc là, c'est un appel très fort à l'ensemble des citoyens écolos, gilets jaunes, mais citoyens en général, de se mobiliser si on a envie que ça bouge sur ces questions-là dans les prochains mois.
Tout est insuffisant, mais nécessaire. La dernière question que je voulais vraiment te poser, c'est... On le voit, tu parlais d'écologie tout à l'heure, avec la transformation écologique qui est nécessaire. On voit ça, la majorité des personnes voient ça comme une frustration, comme un poids, plutôt comme une opportunité. Le fait de remettre la citoyenneté au cœur et d'impliquer beaucoup plus les Français, ça peut être un peu vu de la même manière. On a cette tendance à dire, mais finalement, je me dédouane de mes pouvoirs, je laisse un dictateur fort le pouvoir de décider pour moi, et comme ça, je vis ma vie tranquille. Comment on rend sexy cette citoyenneté du quotidien?
Je pense qu'on la rend sexy en mettant de l'enjeu. C'est-à-dire que les citoyens ne sont pas dupes. Quand on leur propose de délibérer ou d'avoir des conseils de quartier sur la couleur des trottoirs ou les chaudières, bah, ils ne viennent pas, ils ne participent pas, ils s'en fichent. Et je crois qu'ils ont raison. Quand on leur met de l'enjeu et qu'on leur parle des vrais sujets qui sont comment est-ce qu'on fait une transition écologique socialement juste, évidemment qu'ils viendront, évidemment qu'ils s'intéresseront. Moi, j'ai vraiment aucun doute là-dessus au vu de ce qu'on a pu voir. Je prends un autre exemple et je finirai là-dessus sur la question du Texas, qui est pays pétrolier par excellence, lobby très fort. Avant la mise en place d'un tel processus, quand on demandait aux citoyens « Est-ce que vous êtes prêts à payer plus pour avoir des énergies renouvelables ?», les gens disaient « Non !» Aux élus de se débrouiller pour la transition écologique, nous, on ne veut pas payer plus cher. On a mis en place un tel système délibératif, ça a permis aux gens de finalement comprendre ce que c'est que le changement climatique, comme comprendre qu'une transition écologique, ça ne voulait pas forcément dire plus de chômage et risque pour moi dans mon boulot, comprendre que c'était finalement utile pour l'ensemble de la société, et du coup, aujourd'hui, d'arriver à l'État qui a le plus d'éoliennes sur l'ensemble du pays, enfin de l'État, des États-Unis, pardon.
Donc ce que tu dis, c'est que finalement, un processus de décision comme celui des assemblées citoyennes, il est accompagné d'un processus d'éducation qui libère en fait ce genre de
mouvement. Complètement.
Dernière question, effectivement. Il m'en restait une petite. Là, les personnes qui nous ont écoutés, elles se sont dit « Mais oui, mais absolument, mais c'est incroyable, mais depuis le temps que je le pense !» Quel est leur premier pas sur ce chemin de l'éco-citoyenneté et de la démocratie ouverte? Fais-moi la maline, là.
Il y en a beaucoup, non, c'est plutôt lequel choisir.
Ouais. Il faut oser laisser des silences à la radio. Pourquoi on ne laisserait pas de silence?
Non, je pense qu'il y en a plusieurs. Je peux en donner plusieurs,
du coup. Oui, allez, vas-y.
Allez. Il y en a un qui est d'oser, finalement, si on n'est pas content de se présenter aux élections. Là, on sort des élections européennes. Finalement, on voit... Le FN face à La République En Marche, et puis une troisième voie qui est la voie des écolos, qui semble sortir comme la première force de gauche. Est-ce qu'il n'y a pas là à reconstruire un nouveau programme, une troisième voie?
Ça, c'est tous élus qu'on a reçus la semaine dernière, ou le pacte pour la transition qu'on peut mettre aussi en avant.
Il y a comment est-ce qu'en tant que citoyen, je peux pousser pour un certain nombre de demandes auprès de mon maire? Et les maires sont assez partants pour ce genre de choses. Comment, en tant que citoyen, je peux pousser pour avoir davantage de processus de ce type, assemblée citoyenne? Et quand on m'appelle, quand je suis tiré au sort, en fait, dire oui. Ouais. Oser dire oui, oser se plonger dans un tel processus. En général, les gens en sortent vraiment réjouis.
Et une dernière?
Et une dernière, je pense que c'est tout simple, mais le vote, même si j'entends et je comprends ceux qui... considère que l'abstention est aujourd'hui une manière de se faire entendre. Je crois que malheureusement, la montée du populisme ne leur donne pas forcément raison, et qu'à ce petit jeu-là, je pense qu'on va tous perdre, y compris ceux qui s'abstiennent aujourd'hui.
Merci Mathilde. On termine sur les chapeaux de roue. Je redonne quand même, je ne l'ai pas donné d'ailleurs, le site internet de Démocratie Ouverte, c'est démocratieouverte.org pour les personnes que ça intéresse. Vous êtes très présents sur les réseaux sociaux. Je vous invite aussi à aller voir la démarche de Gilet Citoyen.
Exactement, qui est un site internet, giletcitoyen.com.
Merci. Et ben voilà, ça commence par moi l'émission, c'est terminé. Je suis ravi d'avoir passé ce moment en votre compagnie, d'avoir vécu avec vous ces 30 rencontres inspirantes qui m'ont envie, moi elles m'ont donné envie en tout cas d'être un éco-citoyen plus ambitieux en 2019, et je le sais grâce à vos nombreux retours, à vous aussi qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé là pendant cette année. Merci à Raph aux manettes, merci à Raj pour son soutien et son accompagnement, deux saisons et deux années passionnantes hein, comme je le disais, grâce à eux et grâce à vous qui avez fait de cette émission l'émission éco-citoyenne la plus écoutée de France, mine de rien. Moi je vous dis un immense merci. Si vous voulez réécouter ou partager cette émission, c'est comme d'habitude hein, rendez-vous sur rage.fr, Spotify ou iTunes. Continuons à construire un monde meilleur, continuons à être heureux, et je vous dis à très bientôt. Salut.
Construire un monde plus humain, ça commence par nous. Avec le Crédit Coopératif, ensemble, nous avons ce pouvoir, le pouvoir du nous.